Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could be gaming.
Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM. Deux épisodes dans la même semaine, wow, qu'est-ce qui se passe?
C'est vraiment un événement, ouais.
On est gâtés en février, vous inquiétez pas, on va essayer de rester sur cette cadence. Je suis en compagnie d'Ulysse, bonjour, bonsoir.
Salut Swill.
Salut. Aujourd'hui, épisode pas spécialement spécial, j'ai envie de dire, mais un épisode qui va parler en fait d'émulation et de hacking dans le jeu vidéo. On va vraiment essayer de rester dans le cadre du jeu vidéo. Dans l'idée, ça n'a jamais été un sujet qui me suis jamais dit « Eh, vas-y, je vais faire un épisode là-dessus », tout ça et tout. C'est vraiment un truc qui m'est venu comme ça, ça nous est venu. Ça vient d'Ulysse, hein. Je crois que c'est une idée d'Ulysse à la base, de faire un épisode sur l'émulation. Et ça m'a fait un peu l'effet d'un déclic en mode « Oui, ça fait sens, oui, on doit faire un épisode sur l'émulation ». Un peu comme on l'a fait sur le média physique, c'est le genre de sujet un peu large, un peu ouvert, où on peut se dire, ça va, c'est au-delà du jeu vidéo, limite, j'ai envie de dire. C'est des sujets qui sont quand même beaucoup plus ouverts.
Ouais, bien sûr.
Mais du coup, Ulysse, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est l'émulation, je pense qu'on va commencer par l'émulation quand même avant de parler de hacking. Comment on pourrait définir rapidement en quelques mots, vas-y, l'émulation, c'est quoi? Ça se mange, ça nage, ça vole?
En fait, l'émulation, l'idée, c'est d'avoir un programme qui va donc émuler, c'est-à-dire répliquer le fonctionnement et la programmation d'un écosystème. Qu'est-ce que c'est un écosystème, me demanderez-vous? Un écosystème, c'est un système d'exploitation. Par exemple, ça peut être Windows, ça peut être Windows XP, Windows Vista, qui sont plus soutenus, vu qu'on est à Windows 11. Ça peut être la PS1, la PS2. Elle a un système d'exploitation, elle a un hub, un menu, un programme qui est là pour accueillir d'autres programmes. Et en fait, la meilleure analogie que je vais trouver pour parler d'émulation, faut imaginer que vous rentrez dans un restaurant, tout simplement, et d'un coup, vous mettez un chef en cuisine, vous dites, là, tu vas me préparer tout ce qui est italien. Et d'un coup, ouais, ok, il sait préparer tous les plats italiens.
Il a une moustache.
Il a une moustache, vraiment, il est chill. Et il vous dit, ok, maintenant, tu vas devenir un chef français étoilé. Là, vous faire un petit plat tranquille, une petite viande, voilà ce que vous voulez, des papillotes. Et l'idée de l'émulation, c'est ça, c'est que on puisse accueillir d'autres programmes que compatibles avec ce chef-là, avec ce programme. Et donc, l'émulation, c'est présent partout. C'est présent sur PC, c'est présent sur console aussi. Et si on a voulu faire ce sujet-là, pour l'introduire, c'est parce qu'il y a une grosse question éthique vis-à-vis de l'émulation. Il y a l'émulation légale et il y a l'émulation illégale.
Tintintin.
C'est ça. Pour faire très bref au niveau des présentations, à chaque fois qu'on parle d'émulation, on va parler de ROM. Donc pour avoir un peu un lexique, la ROM, qui est Read Only Memory, c'est le disque ou la cartouche.
C'est le fichier. Quoi.
Voilà, c'est le fichier. Je vous parlais du chef qui est en cuisine. La ROM, c'est le plat. C'est la recette. C'est que la cuisine, elle est cool, mais s'il n'y a pas de plat à servir, ça ne sert à rien. Donc, la ROM, vu que c'est donc le logiciel qui est soit enregistré sur une cartouche ou sur une borne d'arcade en elle-même, bah, elle est la propriété d'un éditeur tiers et pas de la plateforme d'émulation. Ce qui fait que bah, si, en fait, il n'y a pas d'autorisation ou il n'y a pas de contrat légal pour dire que la ROM peut circuler librement, vous êtes dans l'illégalité en la téléchargeant et en faisant de l'émulation. Si je vous dis ça, c'est parce que là, j'avais trouvé ça sur Wikipédia. Il y avait deux choses. C'était que le fait de copier le contenu d'une ROM et de la vendre ou de la distribuer sans l'accord de son auteur est assimilé à de la contrefaçon et est illégal. Voilà. Notamment parce qu'en plus, il mentionne que ouais, les auteurs qui autorisent la copie sont rares, mais que la copie de ROM est autorisée si la durée du copyright est passée. Mais du coup, maintenant que vous savez presque c'est l'émulation, pourquoi c'est un sujet dans le jeu vidéo? Parce que dans le jeu vidéo, je pense même que c'est vraiment le premier domaine où c'est important, il y a un rapport à la préservation des médias qui touche à l'émulation. C'est-à-dire qu'on n'émule pas un film, on n'émule pas un projecteur, un lecteur Blu-ray, un lecteur
album,
DVD.
Un album de musique.
Voilà, c'est ça. On n'émule pas vraiment ça, on peut le lire sur n'importe quoi, il y a une compatibilité assez grandissante. Assez large. Le jeu vidéo, c'est pas le cas. On en a parlé là avec la PS1, PS2, PS3, enfin avec les 30 ans de Sony. C'est des systèmes fermés et donc chaque système a ses jeux. Donc si jamais ce système-là n'est plus supporté, vous pouvez plus jouer à ces jeux. Il y a des problèmes quand ces jeux-là n'ont pas de remaster, quand ils n'ont pas de remake, quand ils n'ont pas de portage. La question, c'est bah, comment on fait pour encore y jouer? Et là, bah, du coup, je te laisse un peu la parole, Swain, mais si tu veux, toi, creuser un peu le pourquoi c'est problématique.
Sur console, ça a toujours été un gros problème, parce qu'en plus, c'est des consoles qui sont... c'est des machines, elles sont tout à fait obsolètes. Je pense à des consoles aujourd'hui comme la Dreamcast,
oui.
Par exemple. Il y a un énorme problème de lentille. Okay. La lentille qui, en fait, qui lit le disque, il y a un souci. C'est de la mécanique dans l'idée. Le problème, c'est que la lentille, elle vieillit très mal. Mais, c'est-à-dire, la Dreamcast, elle a plus de 20 ans aujourd'hui.
Ouais.
Plus de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des Dreamcast sortis d'usine, tu vois, qui ont une lentille encore truc. Il faut aller chez le réparateur. Donc, ces jeux-là sont soumis à des machines qui ont, dans l'idée, une sorte de date de péremption mécanique. Tu vois, dans l'idée, on y peut, c'est des machines, un jour, elles vont.
Oui, ça va.
Toutes nos consoles, un jour, vont mourir. Tu vois, c'est logique. Et le problème, c'est que bah, les jeux dans tout ça, et en fait, je pense que c'est là tout l'intérêt, j'ai envie de dire, de ramener un peu, je sais pas si c'est l'éléphant dans le truc, mais la question du PC, l'intérêt du PC dans tout ça. Aujourd'hui, l'émulation, ça se fait principalement sur PC quand même, même si les consoles ont les capacités d'émuler, même les calculatrices, elles ont assez de puissance, je crois que c'est sur les Texas Instruments, les dernières, genre elles ont les capacités de d'émuler certains jeux de la Super NES, je crois, ou de la Game Boy. Non, de la Game Boy, dans la Super NES, c'est beaucoup. la Game Boy et tout, donc on arrive à... Parce que dans l'idée, les calculatrices, c'est des mini-PC, en vrai. Et c'est sur PC qu'on va trouver principalement les émulateurs aujourd'hui les plus connus. Je pense à Dolphins, je sais pas si toi, t'as des noms d'émulateurs comme ça en tête.
Moi, je m'étais noté ROM Station, qui à l'époque, quand moi, du coup, je connaissais et je regardais ça, j'étais petit, j'avais 5-6 ans, c'était gratuit. Maintenant, je sais qu'il y en a une sorte d'abonnement ou un truc qui est payant pour y accéder. Il y avait le fameux Switch Yuzu, qui a fermé l'année dernière parce que Nintendo a...
Si j'oubliais le nom du coup.
Ouais, c'est possible. Mais de toute façon, on va pas vous faire la liste des...
Oui, non, on n'est pas là pour ça, mais...
y en avait plusieurs. Mais par exemple, Switch Yuzu, celui que moi, là, je citais, je sais que voilà, l'année dernière, ils se sont pris un procès. En tout cas, ils ont été à ban, mais Nintendo leur a demandé de cesser toute activité parce que c'était un émulateur de Switch. Voilà. Et donc, ça posait la question de, OK, c'est leur propriété intellectuelle, ils décident qu'on veut plus pouvoir jouer à des jeux Switch sur PC. Et ce qui est en vrai, ils sont dans leur droit, c'est leur propriété, c'est leur IP, ils font ce qu'ils veulent. Mais la question, elle devient plus ardue quand on pense à des jeux qui sont sortis il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans même, 40 ça pourrait être le cas. Ouais.
Mm-hmm.
Et c'est là que ça devient un vrai débat. Parce que, pour faire un petit pont et une petite passerelle, on en a parlé un peu dans l'épisode de la coop. On avait parlé, si vous vous souvenez, donc des LAN entre programmateurs qui démocratisent dans les années 90. Et on avait surtout parlé après donc des demo makers qui se réunissaient pour partager donc des logiciels. Ça pouvait être même des films, des programmes, de la musique, et ça s'appelait les demo parties dans les années 90. Et bah, toute cette culture du piratage, du hacking, si on prend des gros mots, elle est quand même un peu étroitement liée à l'émulation parce qu'il y a quand même un objectif commun, au-delà du fait de dire « Ah, c'est jouer à des jeux vidéo gratuitement », il y a l'idée de faire une archive commune du jeu vidéo. Et vraiment, les modeurs...
Il y a le partage.
Ouais, les modeurs, les communautés qui se rassemblent autour de ces jeux font un travail assez titanesque pour se procurer certains jeux. Si on veut partir un peu sur quelques exemples, je sais qu'il y a un jeu que moi et Soul on aime énormément qui a maintenant été retiré de Steam et c'est Rollerdrome,
quel jeu, je crois que je vous l'ai déjà recommandé de ça et tout, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est un jeu qui vient de chez Roll7, je le présente en rapide. Roll7 qui ont fait des jeux comme Holy Holy World, depuis quelques années ils sortaient des superbes titres et tout. Et voilà, le studio a fermé, c'est je pense quelque chose d'assez important. Le studio Roll7 a fermé, a été voilà, comme pas mal de studios ces dernières années, c'est-à-dire même si tu gagnes un BAFTA, tu peux mettre la clé sous la porte, ce qui est
inavéré. Je savais pas qu'ils avaient fermé, tu vois.
Ils ont fermé Roll7. Okay, et en fait, du coup, bah, le jeu Rollerdrome, du coup, a été sorti du store. Et le problème de Rollerdrome, c'est qu'il n'a pas de sortie physique. Il n'a pas de physique. Et en fait, il a été retiré de Steam. Et là, du coup, le jeu n'a pas de sortie physique. Le jeu est retiré de Steam. On fait comment?
Il est même pas sur Switch, ni rien. Ok, tu vois, c'est ça, parce que j'avais pas creusé. Moi, j'avais vu qu'il était retiré de Steam, et puis ok, c'est hyper problématique.
Il est encore sur le PSN, je sais qu'il est encore disponible, tout ça et tout, sur le truc, mais comme t'as dit, c'est des bails fermés. Je pense que le problème, là, c'est que on a littéralement un jeu qui vient d'un studio primé, qui est comme ça, du jour au lendemain, retiré du store numéro 1 PC, j'ai envie de dire.
Ouais.
Là, le problème, c'est la grosse question, c'est comment on fait. Comment on fait aujourd'hui, voilà, surtout qu'à l'ère du digital, je pense que l'émulation prend encore plus de sens. ou en fait comment on fait pour maintenir en vie des jeux qui sont disponibles qu'à travers le online en fait.
Mmh, ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça, si on vous fait un épisode sur l'émulation ou le piratage, avec des gros mots, c'est pour vous expliquer qu'en fait...
Il y a un intérêt ?
Il y a un intérêt, exactement. Genre en fait, je prends un peu d'avance parce que foncièrement, je pense que c'est un épisode où c'est plus intéressant d'avoir un débat sur le pourquoi c'est important que d'avoir une conclusion, de dire est-ce qu'il le faut ou pas ? C'est genre, en fait, la conclusion elle est évidente, c'est oui, il faut pirater, il faut qu'il y ait de l'émulation. Pourquoi ça ? Parce que pour vous donner un exemple, en fait, le piratage ou l'émulation, mais vraiment là, le piratage, même dans le cinéma, ça a augmenté. C'est-à-dire qu'on le voit, on va sortir un peu du cadre du jeu vidéo, pour ce qui est cinéma et séries. Les plateformes comme Netflix, Hulu, Disney+, Paramount, HBO Max, Prime Video.
Tu peux t'arrêter là, tu peux t'arrêter.
Voilà, je pourrais en citer
France TV /
Mubi. Vas-y, bref, toutes. Et j'ai beaucoup d'amour pour Mubi. Il y a tellement d'abonnements, il y a tellement de cases à cocher. Crunchyroll, je vais pas m'arrêter en fait. Et au bout d'un moment, les gens se disent « Ok, ça nous pète les couilles. On a envie d'accéder à un catalogue de titres sans payer genre 10 euros par-ci, 20 euros par-là. » Donc, on se rend compte qu'en 2022, le piratage de films avait augmenté de 39%. C'est-à-dire qu'en 2020, les visites mondiales de sites de téléchargement illégaux, elles avaient donc baissé à 104 milliards. Mais en 2023, elles avaient réaugmenté à 141 milliards. Donc on voit qu'il y a une hausse du piratage, des gens qui vont essayer d'accéder à ce contenu de façon illégale, vu que malgré tout, ça reste illégal hein, de faire du téléchargement, d'accéder à ces contenus sous copyright. Mais le problème, c'est que en tant que joueur, en tant que consommateur, il n'y a pas vraiment d'autre solution, en fait. C'est-à-dire que Rollerdrome, c'est un jeu, comme l'a dit Sweet, qui est primé, qu'on a tous les deux fait, moi je l'ai fait aussi sur PS5, je crois.
Ouais, pareil.
En fait, sur PC, imaginons que vous l'avez dans votre bibliothèque Steam. C'est cool, vous pouvez peut-être encore y accéder, mais si vous le désinstallez un de ces quatre, ou si Steam un jour lâche, toujours un peu l'exemple où les gens disent « Mais Steam ne va jamais disparaître. » On a dit la même chose de plein de plateformes, ou de plein de jeux.
Petit exemple tout bête, hein, quand je crois que c'était la semaine dernière, quand le PlayStation Network avait shut down, plein de gens s'est rendu compte que leur... C'est un mec qui avait partagé ça sur Twitter en mode il partageait un screen de Persona 3 Reload,
ouais.
Qui est un jeu totalement solo, totalement offline, mais qu'il avait acheté via le store de PlayStation, donc le PS Store, pardon. Et comme il n'était pas connecté au PlayStation Network à cause du problème de serveur, il ne pouvait pas accéder à son jeu,
ouais,
même si le jeu était un jeu totalement offline, alors que le truc était installé sur sa console. Il fallait qu'il soit connecté sur le PSN. Donc, tous les délires de « non, mais jamais ça va arriver », les gars, le problème est déjà là, j'ai envie de dire.
Oui.
C'est
que surtout se parer à une éventualité de dire « Non, mais il n'y a aucun monde où ça arrive. » Oui, mais le souci, c'est ça, c'est que c'est arrivé, ça peut arriver de nouveau, et si ça arrive de façon plus globale, vous allez être dans la merde. Moi, je me rappelle que justement, par rapport à ça, c'était Elden Ring sur Series X, où il y avait eu un patch qui ne s'était pas fait, et mon jeu voulait pas se lancer alors qu'il était chez moi sur ma galette. Je crois que c'est l'exemple que je prends tout le temps, parce que ça m'avait tellement rendu fou de me dire « J'ai un disque chez moi, je vais le mettre dans ma console me dit « Yo frérot, tu sois connecté à Internet. » Mais comme le Xbox Live était off, il était out, bah, je pouvais pas y jouer. Et ça m'avait vraiment rendu malade.
Mais il y a un mode offline sur Elden Ring, d'ailleurs.
Il y a un mode offline, donc ouais, oui, ça n'a pas de sens. Hein. C'est pas genre, c'est un jeu multijoueur, et tout de suite, du coup, il y a une raison à ce que le jeu puisse pas lancer. Non, c'est juste que vraiment, la console refusait à ce que je lance le jeu. C'est pas genre, j'étais dans le menu, ça marchait pas. Et pour Rollerdrome, ce souci, il est un peu connecté. C'est que... Vous cachez un jeu derrière une bibliothèque en disant « Bah maintenant, le jeu, vous pouvez plus l'acheter. » C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveaux consommateurs potentiels du jeu. C'est un problème pour le fait de le découvrir, de le pérenniser, parce que comme on l'a dit, c'est un jeu qui est primé, qui est un excellent titre d'action. Vraiment, c'est un super titre. Et me dire que bah là, les clés, elles ne coûtent pas encore trop cher. J'ai vu que sur des sites de marché gris, du style... G2A, des trucs comme ça.
Ah oui, oui.
Tu sais, Instant Gaming.
Ouais, ouais.
Tu trouves le jeu pour aller 3 euros, 3-4 euros. Mais il y a un moment donné où les clés pourraient augmenter. Je sais que par exemple, moi je me suis noté d'autres exemples. Si jamais vous vous dites, ça c'est un exemple récent, en soi on peut toujours acheter la clé n'importe où. Mm-hmm. Ok, vous aimez les jeux Spider-Man, peut-être, peut-être pas.
Moi
j'adore les jeux Spider-Man, c'est vraiment l'exemple que j'aime beaucoup. Parce que tous les jeux Spider-Man avant Marvel Spider-Man sur PS4 et sur PC ne sont plus disponibles nulle part à l'achat. La seule façon de jouer au Règne des Ombres, qui est un titre assez culte, Spider-Man Dimension, le Spider-Man 2 et 3, qui sont sortis sur PS2, PS3, tout ça, les seules façons d'y accéder, c'est d'acheter soit une version d'occasion, qui se revend à 60-70 euros, pour Vinted ou Le Bon Coin, Ou alors de le craquer. Nom de Dieu, attention, vous êtes des pirates. Ou alors c'est tout en fait. J'ai réfléchi, mais non, il n'y a pas d'autre solution. En fait, il est plus sur Steam, il est plus sur rien. Le jeu a été délisté pour une question de droit parce que Activision n'a plus le droit d'éditer en fait les jeux Spider-Man.
Et dans ce cas-là, comment on fait ?
Comment on fait ? Et ben voilà, la solution c'est soit vous piratez, soit vous achetez à un mec sur le bon coin parce que vous avez la console. Donc faut que vous ayez une Xbox 360 ou une Xbox One. Que de souvenir, les jeux Spider-Man ne sont pas supportés par la rétrocompatibilité parce que pas de licence. Et en effet, là, ça pose un vrai problème. Et c'est ça un peu le souci avec ces jeux-là, c'est que c'est comme les GTA ou les jeux à monde ouvert qui ont des radios. On voit très souvent passer ce souci de, il y a des radios qui sont plus supportées. Les contrats qui ont été signés d'utilisation, bah, ils sont finis. Du coup, les jeux n'ont plus le droit d'être vendus parce qu'ils n'ont plus le droit de commercialiser telle ou telle musique. Bah, ça fait que certains jeux, ils vont peut-être faire des mises à jour. Et donc, peut-être que le jeu va être encore accessible, mais il n'aura plus du tout la BO de base. Et je suis très navré, mais je pense que la BO d'un jeu vidéo, si on doit parler jeu de course, c'est l'âme d'un jeu.
Non, mais oui, réel.
Voilà, parce que je sais que là, je me dis... Enfin, moi, je sais que Soul aime énormément les Need for Speed, mais si on vous disait que là, je sais pas, la Most Wanted ou Underground 2, ah bah la BO, elle est plus disponible pour qu'on la
change
pour
un truc moderne. Tu joues
au jeu, il
n'y a plus de musique.
Ouais,
genre, tu
ouais, c'est ça, ça rendrait fou.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez. RNG.
Et c'est cette question-là de droit, c'est que là, ce qu'on vous raconte, c'est pas pour vous dire « Hey, il faut pirater, abat le capitalisme et tout ça ». On peut être un art un petit peu, hein, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de dire qu'il y a un vrai souci éthique sur le fait d'accéder ou non à des œuvres d'art, vraiment à des œuvres de jeux vidéo.
Et surtout, excuse-moi de te couper, surtout dans un contexte où le rétro gaming, moi je le dirais toujours, en vrai, si quelqu'un vient me voir et me dit « Ouais, Swill, j'aimerais jouer à tel jeu sur PlayStation 1 », moi je le dirais toujours, la meilleure manière... pour jouer à ton jeu là sur PS1, c'est d'avoir la PS1, avoir une télé qui est dédiée, avoir... C'est l'expérience de base souvent moi, que je vais mettre en avant, tu vois. Mais aujourd'hui, truc tout bête, hein, c'était, je crois, il y a quelques semaines, j'étais dans le quartier de Bastille, à Paris, et je tombe sur une boutique qui est vraiment superbe, qui s'appelle Retro Game Shop, voilà. Petit coucou. Et la boutique était superbe, et je tombe sur genre... je tombe sur une Dreamcast. Je tombe sur une Dreamcast en super bêta et je regarde un peu le catalogue des jeux et je commence à voir le prix et waouh, même mon frère était choqué. C'était vraiment genre, j'étais avec lui dans la boutique, on était là, mais attends, mais ça coûte combien aujourd'hui d'avoir une console rétro? Et rétro, genre ça va, genre la Dreamcast, elle a 20 ans, c'est du rétro gaming, mais on parle pas de la Neo Geo, on parle pas d'une Atari, genre ça va dans l'idée, je vais pas non plus très très loin, mais le prix du rétro gaming aujourd'hui, c'est un luxe de malade. Et en plus, voilà, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des machines qui sont un peu obsolètes, qui aujourd'hui commencent à prendre la poussière, qui sont de moins en moins fiables. Il faut avoir la télé adéquate, il faut avoir une manette, il faut avoir tout ça. Ça coûte extrêmement cher. Et est-ce que ça vaut le coup, surtout que voilà, on a la possibilité sur un PC d'avoir un émulateur. Et en plus, l'intérêt des émulateurs, c'est parfois de rendre l'expérience plus agréable.
Ouais.
Plus agréable. Moi, je pense à... Moi, par exemple, sur mon téléphone, qui tourne sur Android, c'est un Samsung, je peux faire tourner des émulateurs dessus. J'ai un émulateur PSP et DS. Ah ouais. Il y a plein de fonctionnalités qui sont rajoutées sur émulateur que vous ne pouvez pas avoir si vous jouez au jeu de base sur la console dédiée. Par exemple, je pense à Pokémon. J'ai toujours un Pokémon, par exemple, j'ai Pokémon Heart Gold sur mon Android. J'ai la possibilité de faire de rewind ou de save state. C'est vraiment l'un des features phares des émulateurs, c'est aussi de pouvoir parfois sauvegarder quand on veut et revenir à... C'est très 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 utile pour des... Je pense aux jeux Super NES, je pense à plein de jeux qui sont hyper galères, où il n'y a pas de sauvegarde, de vraiment genre pouvoir sauvegarder quand on veut. C'est vraiment, je trouve, l'un des intérêts des émulateurs, c'est la flexibilité. On fait ce qu'on veut, parfois les jeux sont plus beaux. Truc tout bête, hein. Le fait de pouvoir jouer en widescreen, en 16:9, sur des jeux qui étaient pensés en 4 tiers, le fait de, comme c'est des jeux qui étaient pensés sur le CRT, le fait de anti-aliaser, le fait que le jeu soit moins pixelisé, soit bien pensé pour nos écrans LCD OLED du récent. Genre, aujourd'hui, sur PC, vous pouvez faire tourner des trucs, et c'est un peu techie, faut quand même, voilà, prendre le temps, c'est un peu, voilà, je pense qu'il faut être quand même un peu à l'aise
avec dans
les PC.
Dans le cambouis, quoi.
Ouais, voilà, faut pas avoir peur de ça. Parce que derrière, en vrai, on a quand même des éventualités proposées par les constructeurs que sont Sony et Nintendo. Et Nintendo, c'est pourquoi on aime autant les taper dessus sur l'émulation et le fait, parce qu'il faut savoir que Nintendo et, comme il a dit Ulysse, sont hyper, hyper, hyper agressifs vis-à-vis de leur copyright et tout le délire de droit d'auteur. Ils envoient des avocats, vraiment, genre vraiment, ils sont... Nintendo, c'est limite, je crois, c'est... Je sais plus qui a dit ça, je crois, c'est... Je sais pas si c'est Scott DeWoz ou quoi, mais vraiment, en mode, il a dit « Émuler les jeux Nintendo, c'est un devoir. » C'est un devoir, vraiment, il faut les saouler. Parce que vraiment, ils sont tellement agressifs, et en vrai, ils ont le droit, mais derrière, le problème, c'est que... Eux, leur argument, c'est quoi? En mode, « Non, mais regardez, sur Switch, vous avez la possibilité de jouer à tous vos jeux NES, N64, Super NES, tout ça et tout. » Mais la qualité de l'émulation sur la Nintendo Switch, Seigneur, retirez-moi mes deux yeux, je vous en supplie, c'est une catastrophe. Et pourtant, ils ont mis des features en mode le save state, le fait de rewind, ce qui est quand même, on va dire, le minimum syndical quand on joue à ces jeux-là, qui étaient vraiment hyper, hyper galères. Et en plus, là, je pense à un jeu comme Mario 3D All-Stars, qui est une compilation, un jeu physique d'ailleurs. C'est une compilation de trois jeux Nintendo Mario, qui sont Mario 64, sorti sur Nintendo 64, Mario Sunshine, sorti sur GameCube, et Mario Galaxy. Mario 64 et Mario Sunshine sur la version de Mario 3D All-Stars sont des versions émulées qui, pour un jeu, je cite, à 70 balles, c'est-à-dire d'un côté, vous avez la version émulée de chez Nintendo à 70€ de qualité catastrophique, et de l'autre, vous pouvez jouer à Mario 64 sur votre PC gratuitement, pour des manières, avec, voilà, on peut se débrouiller, vous inquiétez pas, et c'est le jour et la nuit. Vraiment, genre le fait que Mario 64 est encore en 4 tiers et la seule chose que vous propose Nintendo là-dedans, c'est genre un filtre CRT dégueulasse. Vraiment, je trouve ça lunaire. Après, c'est peut-être leur délire en mode, non, mais on veut que le jeu ressemble à l'expérience de base. Oui. C'est légitime. Mais le problème, c'est que vous laissez pas le choix, en fait. Genre, c'est... Pourquoi pas... C'est ça l'intérêt avec l'émulation sur PC aujourd'hui, c'est que ça laisse une liberté à la personne qui utilise l'émulateur, mais vraiment, il fait ce qu'il veut et il n'y a personne. Genre, vraiment, il y a plein de gens qui sont en mode. Je les comprends, ils sont en mode. Non, mais il faut jouer au jeu comme à l'époque, tout ça et tout. C'est légitime en vrai, il faudrait peut-être essayer de connecter avec, voilà, avec le matériau de base, comment les développeurs ont pensé le jeu, ce genre de choses, mais.
Mais ce que vous voulez en fait. vous avez vraiment envie de jouer à Mario 64 avec une manette Nintendo 64? Non, personne n'a envie de jouer avec cette manette de merde, genre.
Personne n'a envie de jouer, non vraiment personne.
Non vraiment, parce que tu sais, j'y pensais aussi un peu à ce cadre-là, de se dire, ah, est-ce qu'on a envie de se remettre dans des conditions initiales avec son CRT,
pourquoi
dans l'image
pas
tout. Oui, pourquoi, mais il y a un moment donné, c'est du fétichisme. Il y a un moment donné,
je suis pas vraiment d'accord.
Genre, j'ai pas envie de jouer à GoldenEye avec une manette de 60.
Non mais là, je suis à 64, il n'y a pas que la 64.
Bien sûr, là, on parle de ce genre d'émulation-là, et du coup, en tout cas, si on peut parler à un aspect un peu d'image, je comprends en fait l'aspect un peu 4 tiers et tout, bien sûr. Mais moi, je trouve que oui, en effet, comme tu dis, plus il y a de liberté, mieux c'est. Et surtout, faire des portages ou amener des jeux aussi anciens avec de nouvelles technologies, ça permet aussi de les faire connaître à un nouveau public. C'est comme des remasterisations au cinéma de pellicules ou autre. Personne se dit « Ah non, je veux voir le vieux DVD qui a été fait dans les années 90, vraiment la copie hachée. » Non, tu as envie de redécouvrir le film sous un nouveau jour, peut-être un meilleur jour, si c'est possible. Et on le voit avec Mario 64 sur PC. Il y a plein de mods qui ont été faits pour ajouter du ray tracing. C'est hyper intéressant de voir le path tracing de Mario 64. C'est peut-être un peu gadget, bien sûr, mais c'est rigolo à voir. Silent Hill 2, c'est un jeu qui est très étroit, celui de base sur PS2. Il y a des mods qui l'amènent avec un mode ultra-wide, donc avec du... un mode...
29e.
Voilà, 25e.
Ah, encore ça. Plus, ah, oui.
Ouais, exactement. Et il y a également un autre jeu dont j'ai envie de parler, qui serait par exemple Bloodborne.
Ah bah.
Si on doit vraiment parler d'émulation, c'était un peu moi l'exemple à saisir pour parler d'émulation, c'est Bloodborne sur PC. Bloodborne, ça, il va fêter ses 10 ans en mars, si je ne me trompe pas.
Wow.
Et il n'y a toujours pas eu de remaster de Bloodborne sur PS.
Même pas de patch.
Il n'y a pas de patch, même il n'y a pas de patch PS4 Pro, si jamais.
C'est vraiment, juste, il n'a qu'une version.
Il n'y a qu'une seule version en 700p ou 792p, 30 FPS.
Ouais. Oh, 30 FPS, t'es gentil.
Et il n'y a aucun moyen de découvrir le jeu autrement. Jusqu'à il y a quelques mois, maintenant ça fait 4-5 mois, ça faisait vraiment, on va dire, un an et quelques, il n'y avait pas même plus en fait. Mais que des joueurs PC essayaient de craquer le jeu, son code, de le faire tourner avec un émulateur qui s'appelle ShadPS4. pour qu'on puisse y jouer sur PC, parce que tout le monde, enfin, on en parle souvent dans l'émission, mais From Software et les jeux From Soft sont hyper cultes, et Bloodborne, c'est le seul qui est bloqué derrière l'écosystème Sony. Donc ça frustre beaucoup de joueurs. Et là, depuis ouais, donc ouais, 3-4 mois, bah, le jeu est jouable de A à Z en 1080p, 1440p, 60 FPS.
Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Et en vrai, il y en a même plus tant que ça. Il y avait beaucoup de bugs au début par rapport à la physique du jeu. Il y a tellement de choses qui ont été
résolues. Les progrès ont été ouf. Genre, je me souviens, excuse-moi, je te coupe.
Vas-y.
Ils étaient hyper contents en mode « Ouais, les gars, regardez, on a le menu !» Et trois mois plus tard, en mode « Le jeu, il est jouable, il est là.
Ouais. » Et c'est ça qui est fou, c'est que vraiment, ce qui est assez dingue, c'est que le jeu est jouable. T'as des mecs sur Reddit qui vont dire « Ouais, je l'ai fini trois fois. » Et c'est possible grâce à l'émulation.
Ça rend ça accessible.
Donc, dans des meilleures conditions. Et on se dit « Est-ce qu'un remaster va sortir ?» Peut-être, peut-être pas. En attendant, c'est la seule façon d'y jouer de façon, entre guillemets, améliorée. Et pourtant, je dis ça, mais malgré tout, il faut un sacré PC pour le faire tourner. Moi, j'avais testé de le faire tourner avec une 4070 RTX 4070 Nvidia il y a un mois.
Ce qui est pas mal hein, pour ceux qui captent rien.
Il y avait quelques ralentissements et tout, et je voyais qu'il y avait encore des trucs à tweaker. Donc, déjà, j'ai passé une heure et demie à installer les fichiers, à regarder comment le faire. Et c'était un peu galère. Je
voyais
d'autres
machine,
trucs à faire. Et là, j'ai fait une nouvelle carte graphique et je me dis, vas-y, je vais réessayer. Mais en fait, ça, c'est que ça demande un investissement alors que tout le monde a, personne n'a envie de passer. Même moi, j'ai pas envie de passer deux heures de ma vie derrière mon PC, avoir des fichiers de compatibilité, régler des menus. Non, je veux cliquer sur une icône, que le jeu se lance, et fuck it, ça marche en fait. Donc, et là, je dis ça de façon agacée, mais je pense en plus à Avatar Frontiers of Pandora, qui fonctionne plus sur mon PC depuis trois semaines et ça me pète les burnes.
Putain, la rage.
Parce que le launcher d'Ubisoft, il est catastrophique. Donc, pareil. Tu vois, il y a des mecs qui citaient ça par rapport, je crois même, à des jeux comme Silent Hill 2 ou autre. Il y a des jeux avec des DRM, donc on parlait de DRM, des jeux qui sont bloqués derrière le côté online. Si vous n'êtes pas en ligne, vous ne pouvez pas y jouer, ou s'il y a un côté anti-piratage, qui va faire que le jeu tourne pas très bien. En mode, il vérifie sans arrêt si vous êtes en train de le pirater. Il y a de la triche. Et du coup, le jeu, il lag, il a des gains de performance. Il y a des jeux, c'est même pas une blague, ils tournent mieux dans leur version craquée, piratée, parce que le programme n'est pas alourdi de ces poids-là. Que en version de base et Avatar, pareil, j'ai vu des mecs qui disaient sur Reddit, au pire, craque-le, il te vaudra mieux que ta version sur le Ubisoft Launcher. C'est quel...
C'est, genre, c'est une singerie comme
c'est
ça.
C'est pas normal.
C'est vraiment une singerie.
Donc, merde, en fait.
C'est un devoir, craquer le jeu Ubisoft. C'est un devoir. Ils ont assez de soucis comme ça.
Ouais, c'est ça. Enfoncer vraiment le clou dans le cercueil, c'est grâce à vous si Ubisoft va vraiment passer l'arme à gauche. Allez-y.
Avant le remaster de Rayman.
Même ça, je m'étais donné une anecdote que j'ai vue par rapport à Conquer Axe avant qu'on finisse l'épisode. C'était, il parlait de jeux qui avaient des mesures anti-piratage de ouf. Et Rayman 2, The Great Escape, la version PC, ça avait genre plein de couches qui faisaient que si tu l'avais craqué, le jeu devenait injouable. Il te retirait des obstacles, il te retirait des passerelles pour les niveaux. Donc tu pouvais ne pas finir le jeu, mais tu pouvais pas savoir pourquoi. Tu te disais juste, putain, mais il est haché ce level design. Non, tu l'as piraté, donc ils avaient mis plein de faux passages, de trucs, dont une grosse tête de mort qui du coup bloquait l'écran et on pouvait pas voir. Et tu te dis, c'est plutôt rigolo, en effet, ils ont fait une méthode anti-piratage un peu travaillée. Sauf que il y en a qui ont acheté le jeu légalement et qui ont quand même eu ces soucis-là.
Wow.
Et mais attendez, je comprends pas, j'ai acheté mon jeu, pourquoi est-ce qu'il y a tel crâne qui recoupe les trois quarts de l'écran ? Donc, ouais, casser les couilles, même si c'est une minorité qui a été touchée par ça, ça veut dire genre, les mesures anti-piratage ne servent pas à grand-chose. Il y aura toujours des gens pour craquer vos jeux. Et à la fin, un des mots de fin que je voudrais avoir, parce que j'ai eu des longs débats à la fac, moi, quand j'étais vis-à-vis du piratage.
C'est pas,
c'est pas des pertes pour une entreprise. C'est pas des pertes sèches, parce que si quelqu'un craque un jeu, faut être très honnête, il n'a pas envie de l'acheter. C'est pas quelqu'un qui se dit, je suis prêt à mettre 30, 40, 60 euros dedans. S'il le craque, c'est parce qu'il n'a pas d'autre moyen. Sinon, il ne le ferait pas parce que c'est chiant. Vraiment, c'est chiant de craquer, d'installer un ISO, une ROM. Par contre, c'est un accès à la culture. Moi, je peux vous dire que quand j'avais 12-13 ans, c'est un aveu, je sais pas si l'ARCOM va me... Enfin, l'ARCOM, la Adopi va venir me saisir. Mais ouais, j'ai craqué des jeux. Je sais que Far Cry 3, je l'ai fait pour la première fois craquer.
On en craque encore aujourd'hui, en vrai. Voilà.
Dishonored, pareil, je l'avais craqué, c'est comme ça que je l'avais fait. Je l'ai acheté depuis 2-3 fois, pareil, Far Cry 3. C'est que ça m'a permis de découvrir, de faire une culture vidéoludique que j'aurais pas eu à cet âge-là. Parce que ça coûtait cher des jeux quand t'as 12 ans. Tu peux pas dire à tes parents, ah bah achète-moi ci, achète-moi ça. Donc, évidemment, si vous pouvez le faire, il faut comment dire, payer vos jeux, récompenser les programmeurs, les éditeurs. Et il y a des fois, comme le mec de Minecraft l'avait dit, ouais, vous pouvez pas vous payer, bah, piratez le jeu, c'est pas grave, genre tranquille. Ou la meuf de Rollerdrome, comme l'a dit Swill.
Ouais, elle avait tweeté en mode, moi c'est bon, je travaille plus là-bas, le studio l'a fermé, vas-y, hackez-le, franchement, faites-vous kiffer.
Donc voilà, franchement, dans un monde où le rétro gaming est de plus en plus cher, où Nintendo est de plus en plus agressif vis-à-vis de ses copyrights, l'histoire de droits d'auteur, tout ça, nous, on vous encourage, en fait, à juste jouer à des jeux. En vrai, c'est toujours ça le mot de la fin chez RNG, c'est jouer à des jeux, peu importe la manière. Allez écouter notre épisode sur le média physique. En fait, je pense que c'est deux épisodes qui sont assez similaires sur pas mal de points, où la conclusion, elle sera toujours la même. Jouer à des jeux. La conclusion, c'est pas acheter vos jeux, non, c'est jouer à des jeux. Genre, comment, faites ce que vous voulez, moi, c'est pas mon dos. Moi, je vous dis, genre, j'ai craqué, voilà, j'admets. Balatro, je l'ai craqué, j'avoue, sur mon téléphone, j'admets. I admit it, venez me chercher. Mais, le FBI est jamais venu toquer à ma porte.
Moi non plus.
Et si jamais vous vous faites arrêter, dites pas que c'est Soul et Ulysse de RNG qui vous ont prévenu, sinon on est dans la merde. Mais voilà, en tout cas. Jouez à des jeux, faites-vous kiffer, c'était RNG, Radio Campus Paris, 93.9 FM. Super semaine, hein, deux épisodes en une semaine.
Ouais, là, on s'en bat.
On va essayer de continuer là-dessus, peut-être un épisode sur un jeu spécifique, comme on l'avait fait avec Returnal, pourquoi pas. On n'a pas encore décidé lequel, mais vous inquiétez pas, on va se mettre d'accord. Et peut-être un autre hors-série, on verra.
Ouais.
Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.
Ciao, salut.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could be gaming.